Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Washington, Camille Grosdidier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que vous pouvez également suivre sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, des progrès dans l'assainissement à travers le monde, mais beaucoup reste à faire selon l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé.
Aujourd'hui, 91% de la population mondiale utilise un point d'eau amélioré. En 1990, c'était 76%. Donc ça, c'est le succès.
On entendra Christophe Bouliérac, porte-parole de l'UNICEF à Genève. En permettant de fabriquer des prothèses bon marché, l'impression en trois dimensions offre une nouvelle vie aux amputés. L'ONG Race for Water Odyssey rappelle que chacun peut mitiger le fléau du plastique dans l'eau en évitant de polluer les cours d'eau.
Parce qu'on jette en fait des déchets à la mer, on a l'impression que les déchets partent au loin et qu'on n'est plus concerné par le problème. En fait, ils vont revenir comme un effet de boomerang parce qu'ils vont revenir dans les poissons, donc dans nos assiettes directement. Et donc là, c'est vraiment désastreux à ce niveau-là.
Frank David, directeur de la fondation Race for Water Odyssey, reviendra sur la pollution des mers par le plastique. Et le robot Philae, qui s'était endormi sur la comète Chury, a rechargé ses batteries et relancé ses activités, mais difficilement et seulement de façon intermittente. L'absence de progrès en matière d'assainissement menace de compromettre les gains qu'un meilleur accès à l'eau potable a permis d'obtenir pour la survie et la santé des enfants. Tel est l'avertissement lancé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF dans un rapport sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comparé aux objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Le document affirme qu'un individu sur trois dans le monde, soit 2,4 milliards de personnes, vit toujours sans installation sanitaire. Sur ce total, 946 millions pratiquent la défécation en plein air. Pour plus de précision, on écoute Christophe Bouliérac, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
Il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que depuis 1990, l'objectif du millénaire pour le développement, pour avoir accès à de l'eau salubre, à des points d'eau améliorés, ce qu'on appelle des points d'eau améliorés, ce sont en fait des points d'eau qui permettent d'isoler l'eau de ce qui peut la salir, notamment des matières fécales. Donc ça a été un grand succès. Ça même, l'objectif fixé en 2015 a été dépassé, puisque aujourd'hui, 91% de la population mondiale utilise un point d'eau amélioré. En 1990, c'était 76%. Donc ça, c'est le succès. Mais pour en revenir à votre question, il y a à côté de ce succès un échec. Le succès, c'est pour l'eau potable et l'échec, c'est l'assainissement. L'objectif était, de 1990 et aujourd'hui, de réduire de moitié la part de la population qui n'a pas accès à l'assainissement de base. L'assainissement amélioré, c'est en fait une installation qui sépare les excrétats humains du contact humain de façon hygiénique, parce que lorsqu'il y a par exemple défécation à l'air libre, eh bien tout cela ensuite affecte l'eau qu'on va consommer. Eh bien là, il y a eu des progrès, mais on n'a pas atteint l'objectif, puisqu'aujourd'hui, comme vous le dites, il y a 2,4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une installation d'assainissement améliorée. Alors pourquoi ? Je pense que autant les gouvernements ont très bien compris le lien entre la santé, notamment la santé des enfants et l'eau potable. Si on a plus accès à l'eau potable, il y aura clairement un énorme bénéfice pour la santé des enfants. Beaucoup moins d'enfants vont mourir parce que tout cela, rappelons-le, tue beaucoup d'enfants. Eh bien, le lien entre l'assainissement amélioré et l'amélioration de la santé pour les enfants a été moins bien compris, ou en tout cas, il a fait l'objet de moins de moyens. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que, vous savez, fournir de l'assainissement amélioré dans des communautés, parfois c'est très compliqué, tout simplement parce qu'ici, on touche les normes sociales. Il y a par exemple des sociétés, des communes, des villages où la défécation à l'air libre, le fait qu'il n'y ait pas de latrine, n'est pas un problème et c'est même encouragé. Donc il faut changer les comportements. Et quand on parle de changement de comportement, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Évidemment, les campagnes sont beaucoup plus défavorisées que les villes.
On chiffre à combien le nombre de personnes qui pratiquent encore la défécation en plein air ?
946 millions de personnes aujourd'hui pratiquent la défécation en plein air. Là, il faut bien comprendre que tout cela a une répercussion directe sur la vie des enfants. C'est en fait une pratique qui aboutit malheureusement au décès de beaucoup d'enfants. D'après nos estimations, les maladies diarrhéiques sont la troisième cause de décès parmi les enfants de moins de 5 ans. Plus de 340 000 enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire presque 1000 enfants par jour, décèdent chaque année des suites de ces maladies en raison d'un mauvais assainissement notamment. Et le manque d'accès à un assainissement amélioré, ça a aussi un impact sur le retard de croissance. Et il y a aujourd'hui plus de 160 millions d'enfants qui souffrent de retard de croissance ou de malnutrition chronique du fait notamment de ces problèmes d'accès à un assainissement correct.
L'OMS et l'UNICEF disent qu'il est important d'apprendre des leçons de ces progrès inégaux réalisés entre 1990 et 2015. Et vous offrez des suggestions, vous dites que le monde a besoin de faire certaines choses. Quelles sont-elles ?
Mais je crois qu'il faut faire un changement stratégique. On ne peut pas aujourd'hui se contenter de grandes moyennes mondiales. Certes, grand succès en matière d'eau potable, échec ou semi-échec en matière d'assainissement, même si de plus en plus de monde ont quand même accès à un assainissement amélioré, mais pas assez. Mais je crois qu'il faut dépasser cette logique de moyenne mondiale et il faut juste se soucier et même mettre l'accent sur les populations les plus défavorisées, à la fois pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons d'efficacité. Il faut aujourd'hui cibler ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les populations qui sont les plus marginalisées, celles qui bénéficient le moins de ce qui peut leur permettre d'avoir un meilleur accès. C'est souvent dans les campagnes. Alors pour ça, il faut d'abord avoir des données qui permettent de savoir où ces populations se trouvent et ne pas se contenter de grandes moyennes. Et puis, il faut se concentrer sur ces populations les plus difficiles à atteindre, notamment dans les zones rurales, je viens de le dire. Et puis, il faut aussi prendre en compte les progrès permis par les technologies et les approches innovantes pour apporter des solutions durables. Et puis, il y a l'aspect coût, évidemment. Vous savez, on a vu que quand il ne suffit pas d'aller dans un village et de leur dire « voilà, on va vous faire des latrines » et le problème est résolu. Ça ne se passe pas comme ça. On a même des exemples où on a construit des latrines dans des villages, mais les personnes ne veulent pas utiliser ces latrines. Il faut ici, évidemment, les convaincre de faire des latrines. Donc, il faut qu'elles soient convaincues, notamment par des gens de leur communauté. Mais encore faut-il, évidemment, que cela soit économiquement viable. Et donc, il faut que ce soit à des prix abordables. Pour nous, l'UNICEF, ça s'inscrit totalement dans notre concept d'équité. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui indispensable, pas seulement pour l'eau potable, pas seulement pour l'assainissement, de concentrer tous nos efforts sur ceux qui en ont le plus besoin et de réduire les inégalités. Il faut aujourd'hui savoir où vivent les populations qui ont le plus besoin, à la fois d'eau, d'assainissement, mais aussi de santé, mais aussi d'éducation. Et c'est vers elles qu'il faut à la fois consacrer toute notre attention, tous nos efforts et toutes nos ressources pour qu'eux puissent avoir une vie meilleure. Et il n'y a qu'en se focalisant sur ces populations, en disposant de données qui nous permettent de le faire efficacement, qu'on pourra atteindre les nouveaux objectifs que l'on se fixe bientôt pour 2030.
On écoutait M. Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF. Il était joint à Genève. Ici Washington, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Carrefour Sciences et Santé. L'impression en trois dimensions offre une nouvelle vie aux amputés. Jacques Aristide nous dit comment.
Normalement, une prothèse peut coûter des centaines, voire des millions de dollars aux amputés, qui sont souvent contraints d'attendre des semaines pour la recevoir. Mais grâce aux nouvelles imprimantes en trois dimensions, ils changent de vie. C'est vrai aussi bien pour des Américains que des Africains. En Afrique, par exemple, les services de rééducation complète d'Ouganda, Comprehensive Rehabilitation Services in Uganda, en coopération avec l'Université de Toronto au Canada et l'organisation caritative Christian Blind Mission, fabriquent les prothèses grâce à deux imprimantes 3D. À l'autre bout du monde, près de Los Angeles, en Californie, la petite Faith Lennox, bientôt 8 ans, agite sa main robotique. Elle est composée de plastique multicolore, rose, violet, bleu, les mêmes couleurs que le Lego. Suite à une maladie congénitale, son bras avait dû être amputé lorsqu'elle n'avait que 8 mois. Mes copains veulent tous la même, se vante-t-elle en brandissant sa nouvelle main robotique. L'ONG Enable se sert d'imprimantes en 3D pour créer des prothèses de mains telles que celles utilisées par Faith Lennox. Elles sont envoyées gratuitement aux enfants du monde entier. Imprimer plutôt que fabriquer permet de réaliser de grosses économies, fait valoir Mark Swarkeo, un fabricant traditionnel de prothèses de bras et mains.
3D printing versus traditional could save a lot of time.
On peut économiser beaucoup de temps et d'efforts, explique M. Swarkeo. Une prothèse peut prendre à un spécialiste entre 1 à 2 mois et coûter des milliers de dollars. Il faut aussi l'ajuster. Par contre, avec l'imprimante en 3D, il suffit de scanner le membre coupé, puis il est modélisé sur un logiciel avant qu'on ne déclenche l'imprimante. Résultat, la prothèse est mieux adaptée et beaucoup plus confortable pour le patient. Son coût, selon Enable, environ 30 dollars. C'est d'autant plus important, ajoute Mark Swarkeo, que les enfants grandissent. Donc, ils ont fréquemment besoin de nouvelles prothèses. Si jamais Faith Lennox a besoin d'une main plus grande, il suffira de l'imprimer. Au plan psychologique, l'impact des prothèses reste étonnant, ajoute Jong Wong d'Enable. Moi-même, il me manquait des doigts à la naissance et on m'a taquiné et harcelé quand j'étais à l'école. Donc je sais trop bien ce que les enfants ressentent, explique Jong Wong.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Camille Grouditi avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le gouvernement nigérien vient d'adopter un décret déterminant les modalités d'application de la loi interdisant la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale nigérienne le 28 octobre 2014, mais il tarde à être mis en application effective. Et entre-temps, au Togo, pays où les sachets et emballages en plastique non biodégradables ont été interdits dès 2011, la société civile se plaint que rien ne montre l'existence de cette interdiction. Les sachets et emballages plastiques non biodégradables continuent d'être utilisés avec leurs conséquences sur l'environnement, relèvent les médias togolais. Toujours concernant les déchets en plastique, on signale que le trimaran Race for Water Odyssey, après une escale à Hawaï avec des actions de sensibilisation et des échantillonnages sur les îles d'Oahu et de Big Island, fait cap vers l'archipel des Mariannes. Race for Water Odyssey effectue un tour du monde pour procéder à un état des lieux de la pollution des océans par les plastiques, avec 7 membres d'équipage franco-suisses âgés de 30 à 60 ans. Le but ultime de l'expédition est également de proposer des solutions aux industriels d'ici à 2016, rappelle Frank David, directeur de la fondation Odyssey. Il revient dans cette interview sur les découvertes des scientifiques sur l'île de Pâques et autres archipels avoisinants.
Ah bah écoutez, le constat, une fois de plus, il est très alarmant. Je crois que ce qui a été le plus alarmant pour nous, ça a été en fait l'île de Pâques, avec énormément de microparticules sur les plages. Et puis ensuite, il y a eu les îles également au large des îles Kiribati. Mais dans le Pacifique Sud, l'île de Pâques, c'était vraiment consternant de voir toutes ces microparticules. C'est même l'île, aujourd'hui, qui était pourtant la plus éloignée de grandes villes et autres, et sur laquelle on a retrouvé le plus de microparticules, bien plus qu'aux Açores, aux Bermudes ou ailleurs.
Rappelez-nous quel est le danger présenté par ces microparticules.
Alors le danger présenté par les microparticules, il faut comprendre que les microparticules sont des petits morceaux de plastique Donc ils sont en fait des macro-déchets qui se sont décomposés dans les eaux de mer et puis cytostèles et à un ensemble d'années, peut-être 5, 6, 10 ans, dans les océans. Et en fait, ces micro-particules, on les retrouve donc sur les plages, sur des tout petits morceaux de plastique qui peuvent être ingérés par les poissons ou par les oiseaux. Et donc, quelque part, aujourd'hui, on a très peu de connaissances sur l'impact que ça pourrait avoir au niveau humain. Mais il faut savoir que quand on mange des poissons, on est aussi très exposé avec ce problème.
L'ancien président américain George Bush avait été tellement alarmé par les monceaux de plastique qui se déversaient sur les îles au nord de l'archipel de Hawaï qu'il avait débloqué des fonds pour faire nettoyer un peu ces îlots. Est-ce que vous espérez que cela aura eu un impact ?
Bah écoutez, de toute façon, toutes les actions qui sont entreprises et qui vont dans ce sens sont positives. Nous, la Fondation Restorateur, elle œuvre aussi pour être active et sensibilisée sur ce problème. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la solution, ce n'est pas uniquement de nettoyer les océans, parce que ça, c'est quasiment une mission impossible aujourd'hui, tellement les océans sont vastes. Les solutions, elles sont plutôt dans la manière de valoriser les déchets, ou de sensibiliser et d'éduquer les populations pour que les gens ne jettent pas les déchets à la mer.
Mis à part les poissons et la mer, il y a le problème des oiseaux. Notamment, votre bateau a fait escale sur l'île de Malden, qui n'est pas habitée, mais qui est habitée en fait par des oiseaux. Et vous avez détecté là, même là, beaucoup de plastique.
Ah bah oui, c'était même assez impressionnant. Alors Malden, à proprement parler, n'est pas dans un gyre, un vortex, c'est ce qu'on étudie, mais on avait l'opportunité de s'y arrêter, donc on s'est arrêté sur Malden. Et effectivement, on a vu énormément de plastique, pas énormément de microplastique, mais beaucoup de macro-déchets, et puis beaucoup d'oiseaux sur l'île qui doivent être effectivement directement concernés par ce problème, ouais.
Ils utilisent les morceaux de plastique dans leur nid, ils avalent des bouts de plastique brillants qu'ils prennent pour des bouts de nourriture.
Exactement, et qui restent dans l'estomac, ad vitam. Et donc c'est bien là le problème qui est important. Alors nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la Restorateur Odyssée, on est plus concentré sur l'analyse, la typologie, tout ce qui peut être toxicologie au niveau des microplastiques. On est peu sur des analyses par rapport aux poissons et par rapport aux oiseaux, parce que là, ça demanderait des moyens encore supplémentaires. Mais il est clair que le problème, il est très, très important sur toute la chaîne, globalement la chaîne alimentaire, qui concerne directement l'homme.
Quand vous avez fait escale en Polynésie, vous avez notamment trouvé des poissons avec des bouts de cordes de plastique entourant leurs mâchoires qui les étranglaient.
Ouais.
Et c'est un phénomène qui se répète à travers les océans.
Malheureusement, ça se répète à travers les océans. Aujourd'hui, on a fait deux océans. L'océan Atlantique en étant sur le nord. Là, on a fait le Pacifique Sud. Les deux océans sont directement impactés par les problèmes de plastique. On est en ce moment actuellement sur le Pacifique Nord. Mais effectivement, tous les océans sont concernés. Et on a très peur d'avoir des résultats également dans l'océan Indien qui risquent d'être dramatiques parce qu'il y a la proximité de l'Inde, la proximité de l'Asie du Sud-Est qui sont directement des grands pourvoyeurs malheureusement de déchets plastiques compte tenu des populations très importantes qu'il y a là-bas.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que peuvent faire les personnes au niveau individuel pour essayer d'aider un peu à juguler cette marée d'objets en plastique qui se déversent dans les océans et les rivières ?
Bah alors le premier acte, c'est un acte citoyen, tout simplement de ne pas jeter les plastiques à la mer. C'est pas parce qu'on jette en fait des déchets à la mer, on a l'impression que les déchets partent au loin et qu'on n'est plus concerné par le problème. Non, en fait, ils vont revenir comme un effet de boomerang parce qu'ils vont revenir dans les poissons, donc dans nos assiettes directement. Et donc là, c'est vraiment désastreux à ce niveau-là. Donc le premier point, c'est cet citoyen de faire attention à ses déchets, de sensibiliser du monde autour de soi. Chaque citoyen qui est concerné par le problème, bah, il peut justement transmettre le message à beaucoup de personnes, ça c'est important. Et puis ensuite, après, dans des actes de la vie de tous les jours, bah, tout simplement, par exemple, quand vous buvez, vous prenez de l'eau, plutôt que d'acheter une bouteille d'eau, vous pouvez très bien avoir une gourde que vous remplissez régulièrement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau potable partout, on n'est pas obligé d'acheter de l'eau dans les bouteilles. Et là, à chaque fois, ce sont des économies qui sont importantes et c'est une manière de préserver la planète et d'avoir un acte citoyen. Après, il y a une multitude de possibilités à ce niveau-là. Et là, il vaut mieux aller sur le site parce qu'on pourrait avoir une étendue très importante. Après, je crois surtout que l'aspect qui est important, c'est qu'on se rencontre au niveau culturel géographique, que la sensibilisation n'est pas la même, c'est-à-dire qu'on soit en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou dans des îles complètement éloignées ou en Asie, on n'a pas du tout la même approche par rapport aux déchets, la même sensibilité, la même éducation. Et le rôle de Race for Water, c'est justement d'essayer de transmettre le message au plus grand nombre.
On entendait M. Frank David, directeur de la fondation Race for Water Odyssey. Il nous parlait depuis Hawaï, dans le Pacifique. Ici Washington, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. On se tourne vers l'espace. Le robot Philae, qui s'était endormi sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, dite Churi tout simplement, a rechargé ses batteries et relancé ses activités. Mais voilà, de façon intermittente et assez difficilement. Le point avec Morgan Guiriec.
Les informations que pourrait répercuter Philae permettra à la science de faire une avancée unique concernant les comètes et le reste de l'univers. Le robot qui avait atterri sur la comète Churi était resté bloqué dans une large crevasse depuis le mois de novembre, ses panneaux solaires n'ayant pas pu capter une lumière suffisante pour recharger ses batteries. Mais la comète s'étant rapprochée du Soleil, il a redonné signe de vie le 13 juin, mais de façon intermittente. Philae est muni de 10 instruments de mesure scientifiques qui vont permettre aux chercheurs de mener des expériences. Les scientifiques ont déjà commencé à analyser les échantillons d'informations relevés par le robot lors de ses 60 heures de fonctionnement en novembre dernier. La comète est un lieu de recherche très intéressant puisqu'elle n'a jamais été explorée depuis sa création dans le système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Elle pourrait contenir des informations importantes comme de possibles éléments chimiques qui étaient peut-être présents dans le nuage interstellaire à l'origine de la création du système solaire. Les scientifiques rêvent d'y trouver des molécules organiques complexes qui pourraient expliquer l'apparition de la vie sur Terre. Si l'on considérait à l'origine qu'une comète était essentiellement faite de glace, on sait aujourd'hui que c'est faux, a expliqué Jean-Pierre Biebring, responsable scientifique de Philae. La comète 67P Churyumov-Gerasimenko est couverte de grains de poussière qui sont essentiellement de la matière organique. Le fait qu'il n'y ait pas une seule tache de glace sur la surface, y compris dans les lieux avec des fractures, nous indique quelque chose de très important. La glace n'est pas le ciment sur lequel ce corps a grandi. Ce qui est très important pour comprendre l'évolution du système solaire, ajoute M. Biebring. Malheureusement, les communications entre la sonde et l'atterrisseur restent intermittentes et erratiques, ce qui ralentit considérablement la remise en activité du petit robot laboratoire. Le 24 juin, les scientifiques ont encore perdu contact avec Philae. De plus, les quelques communications qui ont eu lieu entre la sonde et l'atterrisseur depuis son réveil ont été courtes et interrompues régulièrement, ce qui est assez surprenant. Mais l'Agence spatiale européenne, ESA, veut rester optimiste et espère qu'à terme, le robot remplira pleinement sa mission.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé, un programme que vous suivez sur VOA Afrique, diffusé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Du nouveau sur le front de la fièvre hémorragique à virus Ebola, eh bien, y aurait-il de nouveaux cas d'Ebola en République démocratique du Congo? Les autorités sanitaires congolaises enquêtent sur une possible épidémie du virus à Ebola dans un village situé à 270 km au nord-est de la capitale, Kinshasa. Michel Joseph raconte.
Selon le ministre congolais de la Santé, une équipe d'urgence est arrivée sur place à Massambio, un village de la province du Bandundu. Elle va collecter des données pour des tests. 6 chasseurs sont tombés malades vendredi dernier, selon le ministre. Ils présentent tous des symptômes similaires à ceux d'Ebola, comme la diarrhée, les vomissements et du sang dans les urines. La veille, ils avaient tué une antilope boiteuse qui était probablement malade. 4 des 6 chasseurs sont décédés, mais signe encourageant, aucun d'eux n'avait la fièvre, l'un des symptômes d'Ebola, ce qui laisse croire qu'ils auraient probablement été victimes d'intoxication alimentaire.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Bienvenue à